les protestants ont un peu compris cela, si vous voulez. C'est la veuve. Je ne nie pas, si vous voulez, l'événement mystique, pas du tout. Mais je dis que ça n'a rien à voir avec ce qui est en question dans le dialogue religieux de la révélation divine. Et je pense que vous sommes d'accord. Okay. Là, vous savez, il y a eu de grands maîtres du judaïsme qui ont eu ces expériences et ces athèses mystiques. Et ces athèses mystiques. Mais c'est de la vie privée. Ils n'en parlent pas. Pour employer une expression un peu triviale, si vous voulez, ce n'est pas le propre de la mystique juive de mettre ses tripes en dehors, en public. Vous comprenez ce que je veux dire, vous ne le trouverez jamais. Sauf peut-être un cas très particulier, et c'est la raison pour laquelle, historiquement, il se trouve tellement contesté, c'est Abou Lafia, si vous avez entendu parler. Okay. Mais c'est un cas vraiment très particulier, mais c'est pourquoi vous ne trouvez pas, parce que ce n'est pas le problème du judaïsme, cette espèce d'expérience mystique de la vie privée, qui est très améliorante d'ailleurs. Le problème du judaïsme, c'est de faire réussir le projet du Créateur en faisant réussir l'histoire à travers la moralité. C'est l'obsession juive, c'est l'obsession hébraïque, c'est ça la religion, elle n'a jamais eu d'autre. Le reste, ces expériences-là, nous les appelons, je m'excuse d'être si tranché, du paganisme. Mais du paganisme dans le sens le plus noble du terme. Mais c'est du paganisme, c'est la religion naturelle, c'est l'acquiescement à faire partie des murs de la maison qu'est le monde, du cosmos, et ce n'est pas ce à quoi nous sommes invités par le Dieu de la vie, devenir le quelqu'un de la personne humaine, réussi en face à face avec le Créateur. La relation, si vous voulez, de Nirvana que vous avez appelée, nous la connaissons, nous avons plutôt la tendance à l'appeler un peu à la manière bouddhiste, équanimité. C'est une relation de sagesse, c'est une expérience de sagesse, mais elle n'est pas considérée par nous comme étant expérience religieuse. L'expérience religieuse est dans la prière, lorsque nous sommes face à face avec le Créateur, qui a voulu créer ce monde afin que nous devenions à notre tour, nous les créatures, quelqu'un. Et c'est une relation filiale de la créature au créateur, une relation parentale du créateur à la créature. Ces expressions de la liturgie biblique, le père, le fils, quel que soit ce qu'on en fait dans le catéchisme, sont à prendre à la lettre. Ani, ayom, yelatira. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde exactement comme un père met au monde un fils. Et je pense que c'est important. Votre question était importante. C'est-à-dire que pas question pour nous de nier la valeur mystique de telles expériences, mais c'est pas pour nous, ça c'est en dehors du problème de la prophétie hébraïque. C'est la vie privée du croyant, et encore une fois, vous ne trouverez pas dans le monde rabbinique des récits d'expériences mystiques de ce type. Dès qu'il arrive que ça soit fait, c'est tout de suite suspect. Ça veut dire ce qui se passe entre ton Dieu personnel et toi, ça te regarde. Ça ne regarde pas la société. Ce qui regarde la société, c'est ce que Dieu pense du comportement moral. C'est ça la vraie religion d'Israël.
Il y a quand même des références.
Mais ce sont des expériences personnelles. Non, non, pas du tout. Ce sont des expériences personnelles. Comment je me conduis d'après ta loi? Lisez le psaume et relisez. Voilà le slogan du roi David. Comment je me conduis d'après ta loi? Et je t'aime parce que je sais que la loi est salvatrice, etc. Mais rien à voir avec la mystique de Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple, ou de Jean-François de Loyola, dans l'Ignace, etc.
Comment se fait-il dans
le droit de... Si vous me permettez une phrase avant que j'oublie, j'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves, de citer un de mes professeurs de lettres du lycée, si vous écrivez des vers à 17 ans, c'est que vous avez 17 ans. Si vous écrivez des vers à 70 ans, c'est que peut-être que vous êtes poète. Si vous êtes mystique à 17 ans, c'est que vous avez 17 ans. Si vous êtes mystique à 70 ans, c'est peut-être que vous êtes mystique. Il ne faut pas confondre, c'est clair.
Okay. Pourquoi, dans le droit fil de la question de monsieur, pourquoi est-ce que certains chrétiens déçus par le christianisme éprouvent le besoin qu'ils soient restreints aux choses de s'appuyer sur l'hindouisme pour se passer du judaïsme?
Parce que, a priori, Lévi-Strauss l'a écrit à la fin de Christ Tropique, en parlant de son expérience personnelle, et c'est très clair. Parce qu'a priori, il y a une tendance, une tentation extrême orientale, de la religion extrême orientale qui n'est pas une religion dans ce sens-là, déjà dans le christianisme. Lévi-Strauss dit ceci, c'est bien à la fin de Christ Tropique. Je crois, oui, là où il raconte son expérience personnelle, vous savez qu'il a été le petit-fils d'un ancien grand rabbin de Versailles, qui était complètement consistorial, enfin ça suffit pour définir. Et alors il dit qu'il a une horreur de l'islam parce que c'est une religion virile. Et effectivement, l'islam, c'est une relation zahar-zahar. Hein. Et puis, je ne voulais pas employer un mot grossier, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Et puis, que dans le christianisme, il y a déjà la féminité dont il a besoin, oui, mais qu'elle se trouve absolument dans la religion extrême orientale. Et il faut mettre le mot de religion extrême orientale entre guillemets. Ceux qui ont pratiqué un peu ces expériences savent qu'il ne s'agit pas d'une religion dans le sens occidental du terme, mais d'une philosophie mystique. Et vous comprenez, quand un chrétien, par exemple, nous dit que le Dieu de la Bible lui a parlé, alors, deux réactions simultanées. Bon, d'abord, on est amusé. Et puis, avec cet attendrissement du grand-père qui voit le petit-fils croire à ce qu'on lui a dit. On est un peu amusé et puis un peu inquiet, parce que c'est du désordre mental. Qu'est-ce que ça veut dire que le Dieu de la Bible va parler à un chrétien? Vous comprenez? Ou bien c'est une façon de parler, et on accepte ça comme façon de parler. C'est de l'expérience mystique, encore une fois, de parler de révélation dans le sens de la prophétie hébraïque. C'est autre chose. Je vais vous dire un peu sous forme de blague, comment nous avons l'habitude d'en parler dans nos textes. Il m'arrive souvent qu'on me pose la question, est-ce que vous croyez dans les miracles de Lourdes? Bon, eh bien je réponds, j'y crois. Et c'est vrai, j'y crois. À condition que ce soit des miracles authentifiés par l'Église. Mais ça ne veut pas dire que le catholicisme soit vrai. Ça veut dire que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques. Vous comprenez quelle est la perspective de la cohérence du monothéisme hébreu? Il y a un Dieu unique qui s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques. Ça ne veut pas dire du tout que ce qu'a vu la petite fille à Bernadette,
oui,
Soubirou, c'est ça.
Oui.
À Lourdes, c'est vrai, et je veux dire plus, ne croyez pas que ce soit de la chutzpa, enfin de l'insolence blasphématoire. Si c'était une petite juive, elle aurait commencé par discuter avec la vision qu'elle a eue. Elle dit, elle m'aurait dit, comment, tu as mis une robe bleue, mais aujourd'hui il faut mettre une robe blanche. Et puis qu'est-ce que tu as, une rose, c'est pas une rose jaune. Vous comprenez? Et ça veut dire que elle a la représentation de son psychisme. Je ne nie pas du tout que Dieu s'est occupé de cette petite fille, mais c'est parce qu'il y a un Dieu unique qui s'occupe de toutes ces créatures. Est-ce que c'est bien clair? Bien. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui, dans cette relation, il est surprenant de constater quand même que les chrétiens ne savent même pas que le fondateur du Dieu, c'est-à-dire Pierre, s'appelait Simeon Bariona, et que la seule juxtaposition de Bariona's fils de Jonas et de Chiméon, et déjà quelque chose
d'extrêmement important. Je vais poser une question d'exagérer un peu de détail, je vous réponds vraiment uniquement pour ne pas vous répondre, mais les rédacteurs des évangiles savent très bien qu'ils ont rédigé un mythe. Et c'est pourquoi ils ont utilisé dans les dimensions de ce mythe des connaissances de la mémoire juive de ce temps que seule la connaissance du Midrash peut décrypter. Et le deuxième fils de Jacob s'appelle Siméon. Okay? Et en tant qu'il est le deuxième fils, et pour des raisons symboliques et précises d'ailleurs dans l'étude du Midrash, eh bien il est un peu le véhicule de l'intervention du Satan dans le monde. Et le vade retro Satanas à Pierre, le Siméon, est déjà dans le Midrash par rapport à Siméon de l'histoire. Vous comprenez? Et, je veux dire, ces choses-là peut-être seront décryptées un jour. C'est-à-dire tout se passe comme si la tradition chrétienne, et je mets le mot de tradition chrétienne, a oublié sa mémoire. Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle ne sait pas ce qui s'est passé à l'origine de sa propre fondation. Et alors, elle s'est transformée en piétisme. Je ne sais pas, je vous le dis très honnêtement, s'il existe encore en milieu chrétien des tenants de la tradition ésotérique chrétienne, je ne sais pas. C'est possible, mais je ne sais pas, je ne crois pas, d'ailleurs. Parce que ça se saurait, nous en avons besoin actuellement. Mais je vous donne un exemple. Si vous voulez prendre le livre de Benouva à propos du dénombrement, le nombre de personnes, de Nefashot qu'il y a dans chaque camp des tribus, dans le Rashi ici, que le nombre des personnes de la tribu de Siméon équivaut à la valeur numérique du nom Satan. Or, et lorsque nous trouvons dans les évangiles que Vaderetro Satana est dit à Pierre Siméon, bon, oui, c'est un détail. Le principe est le suivant. Le récit évangélique reprend à sa manière, sous forme de mythe, le récit historique de l'identité. Vous voyez, les mystères auxquels le chrétien est censé croire, comme je dis hier matin, ce sont des histoires de famille hébraïque. Hein? Alors il n'y a qu'un hébreu qui peut décrypter de quoi il s'agit dans ce récit des évangiles, mais nous savons que c'est un récit mythique dans tous les états. L'événement historique, c'est la conscience des premiers chrétiens. Et le moment viendra que les théologiens juifs pourront aider les théologiens chrétiens à formuler leur propre croyance en toute dignité. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, ma position, elle n'est pas changée depuis des années. Tant que nous n'avons aucun signe que l'antisémitisme chrétien a cessé, eh bien, le moment n'est pas venu. Je pense que c'est clair.
Non, bon. Croyez-moi, il supprimait
toute l'amitié juive. Ah oui, moi, je suis pour être contre. Hein.
Tout à l'heure, je crois que c'est comme ce qui se passait, qui est justement encore en Afrique du Nord, qui se passait dans la ville où là, c'est-à-dire l'expérience mystique collective, où vraiment, il y a la personne d'un saint rabbin qui est vénéré, mais d'une manière extrêmement dépendante du univers. Je suis aussi vénéré par le mouvement.
Quel chrétien aussi souvent.
Oui, chrétien aussi même.
Vincent, le média.
Plus fort.
Récemment, j'ai connaissance d'un effet extrêmement troublant. C'est-à-dire qu'il y a un cerf, enfin, il est considéré comme un cerf à la française. Je me suis
inconnu de. Le Ravankawa.
Comment?
Le Ravankawa. À quel
Je pense pas que c'est le nom. Récemment, il y a une personne qui est allée en Israël. On a transféré le corps d'un serrage. Je pense pas que c'est le nom.
Ah, c'est pas de Jensen alors, c'est un autre. Bon. Ouais. Hein? Comment vous dites?
Je pensais que c'était Zangui, mais les personnes qui sont allées, en fait, qui ont fait l'exhumation du
corps. Zangui.
En Algérie, en 75.
C'est Constantine?
Non, c'est pas Constantine. Qui ont fait l'exhumation du corps, je crois que ça s'est fait en 1975, le corps était transféré en Algérie récemment, elle a dit que c'était au moment de l'anniversaire de l'Aïoula que s'est passé les accords de Ben Salah. Bon, il y avait comme une personne qui s'appelle Jacques Trahi, faisait un parallèle extrêmement osé. Vous pouvez peut-être le
connaître comme ça. Oui, non, ça n'a aucun sens.
Mais c'est extrêmement culte.
Mais non, aucun rapport. Et vous savez, ces espèces de tentations, c'est pathologique. Je me fais bien attention à ça, vous comprenez? Et non, je voudrais profiter de vos questions pour faire une mise au point à ce sujet. Je vais vous dire. C'est en français, en termes de catégorie occidentale, jugeant l'expérience orientale, que nous disons que c'est de la mystique. C'est pas de la mystique. Il y a une communication entre le ciel et la terre, pour parler de façon très dialectique, par des êtres privilégiés. Mais ce n'est pas de la mystique, c'est de la réalité positive dans la croyance de ce en quoi ils y croient, parce que c'est expérimenté. Okay. Je ne sais pas à qui exactement vous faites allusion, hein, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire des relations de ce type est considéré par la tradition comme de la pure démence.
Malheureusement, c'est encore toléré par certaines personnes qui devraient condamner ça.
Pas du tout, non. Dire qu'il y a eu des accords, ça date des lignes, parce qu'on a transformé, on a transporté le corps d'un saint d'un pays à l'autre. Ça, c'est de la démence absolue. Vous comprenez, le Dieu de la Bible est un Dieu normal.
Ces débordements n'ont pas été sanctionnés au cours des décennies passées.
Écoutez, quand on raconte des choses de ce genre, aux rabbins normaux, ils se mettent à sourire. C'est tout ce que vous voulez qu'on intervienne pour, je ne sais pas, un peu ce que je disais, une réaction amusée, regarder à quel point notre peuple est croyant, si vous vous rendez compte. Écoutez, c'est tout à fait autre chose. Vous confondez, si vous voulez, une relation de piété qui est très, très allouée, je ne sais pas comment on dit, très honorable, une relation de piété honorable, et qui se réfère à des expériences du passé, familiales, etc., avec ce que vous appelez une expérience mystique qui aurait une influence dans le déroulement des événements historiques. Ça, c'est du délire mental. Mais alors, vous comprenez, il ne faut pas confondre ces deux logiques.
Je suis d'accord avec vous, mais ça
peut être une expérience.
Vous n'êtes pas d'accord avec du normal et du pathologique. La question que je me pose maintenant, avec toute la machinerie mise en place là, du côté du pathologique dans nos sociétés, c'est de savoir quelle chance il y a pour que quelqu'un puisse dire maintenant, ou parler d'une expérience qu'il aurait eue, d'un contact, ou d'un dialogue, ou d'une voix, ou de je ne sais quoi, sans être taxé de pathologie. C'est-à-dire que dès que vous employez ce mot, déjà, il faut quand même que vous disiez un peu vos critères. Ou,
Je vous donne simplement mon expérience personnelle. Je crois que pas n'importe qui peut se permettre d'être pathologique de cette manière. Ce sont en général des consciences très fines, très profondes, très vulnérables d'ailleurs, très délicates, et qui sont atteintes par la répercussion des événements massifs que nous vivons depuis quelques générations, et qui réagissent en écho très, très, très vibrant. Vous comprenez ? Raisonnement. Mon expérience est que tout cela, c'est du délire. Bon, ça ne veut pas dire que les adjectifs que j'emploie soient forcément péjoratifs. Nous avons énormément de tendresse pour ces gens-là. Okay. Mais comprenez bien qu'il y a une différence de nature, laissez-moi parler, avec la prophétie hébraïque. Et quand un tribun a des accents prophétiques, c'est une manière de parler. Quand un mystique dit je vous dis ce que Dieu m'a dit, je raconte des histoires. J'ai beaucoup d'expérience de ces choses-là. Pas simplement par je veux pas dire le métier, c'est pas un métier, mais enfin la place que j'ai dans l'enseignement, m'arrive pratiquement toutes les semaines des gens comme ça. Et alors, je ne sais pas comment ils arrivent chez moi. J'ai des dossiers dans. Tiens, je veux faire une thèse là-dessus, ça serait une synthèse. Et je la prépare, rassurez-vous. Et pour une raison élémentaire, je n'ai pas le temps d'étudier. Regardez, et je vais vous raconter une histoire typique qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années à Paris, que je vous ai peut-être racontée parce qu'elle me semble extrêmement typique. Un jeune homme qui est venu me voir. Et puis, qui après beaucoup d'hésitations, de circonvolutions, je ne sais pas comment on dit, de préparation, me dit, bon, je sais que vous pouvez comprendre, alors voilà, je vais vous le dire. Et puis finalement, il a accouché, s'il avait à me dire, voilà, je suis le roi David. Immédiatement, j'ai réagi en lui disant, enfin, très longtemps, il y a un verset des psaumes, je n'arrive pas à comprendre, tu vas m'expliquer. Alors il me dit, comment, il faut que je connaisse aussi les psaumes. Alors il me dit, quoi, tu es le roi David ou pas? Deux heures après, il avait l'adresse du professeur Baruch et ça s'est arrangé. Ça ne veut pas dire qu'il était fou, non. Mais il avait été atteint par un trauma de l'occupation, de la guerre, des événements, de problèmes familiaux. Et ça s'est arrangé dans sa vie intérieure comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il était fou. Il était traumatisé. Et ça se soigne. Mais tout ça n'a rien de péjoratif dans mon vocabulaire. Faites bien attention. Je vais vous dire, si vous me demandez mon avis personnel, je vous donne mon avis personnel. Eh bien, il n'y a strictement pas, en aucune manière, de phénomène prophétique de ce genre de notre temps, surtout chez les ignorants. Nous avons un grand principe. L'op amarez tracine. Un ignorant ne peut même pas être pieux. Alors, véhicule d'une expérience prophétique. Non. J'ai dit, je ne sais pas, hier soir ou hier matin, peut-être hier soir. Je pense que les événements de l'histoire du monde universel, et en particulier tels qu'ils affectent centralement la société juive, du monde juif dispersé, et en particulier la société israélienne, laissent à penser que très certainement, dans pas longtemps, je ne sais pas quand, un peu plus, un peu moins, le phénomène de la prophétie hébraïque recommencera. Ça commence, par des manifestations que j'appelle pathologiques. Alors, ne vous laissez pas prendre à ces choses-là. C'est de l'énergie perdue, c'est du temps perdu, ça n'a rien.
Merci quand même, M. Asselineau. Je vous dois tout le respect imaginable, mais quand même, il y a quelque chose, dès que vous touchez à délire ou pathologique, quand même, je me permets de vous faire remarquer que peut-être ce n'est pas votre spécialité. Est-ce que vous acceptez cette réserve?
Attendez, c'est officiellement pas ma responsabilité. Je vais vous dire, essayez de comprendre ce que je dis gentiment. Chaque fois, la vie m'a obligé à apprendre quelque chose. Okay. Je suis enseignant de judaïsme, je ne suis pas ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Mais chaque fois que j'ai un cas de ce genre, eh bien c'est avec des médecins que ça se passe. Et ça y est, c'est clair. Et je vais vous dire, la discipline dure que mes maîtres m'ont imposée, c'est que je ne parle jamais que de ce que je sais. C'est pour ça que je sais ce que je dis, parce que je ne dis jamais que ce que je sais. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il ne faut pas insister, mais je comprends votre souci. Je veux dire une catégorie de la législation talmudique. Cette catégorie s'appelle Meshuga Bedavar Echad. On peut être en désordre sur un point de la lexicité. Tout le reste est sain absolument. Mais je suis là, mais d'abord être. Parce que nous avons des cas de divorce à étudier à cause de, d'une névrose, d'une psychose particulière sur un point précis. Tout le reste, c'est santé psychique absolue. Sur un point, il y a folie. Vous comprenez ce que je dis ? Voilà, c'est pourquoi j'emploie des délires ponctuels. Vous comprenez ? Il faut quand même être sérieux. C'est pas parce que nous sommes croyants qu'on peut croire à n'importe quoi. C'est ça le gros problème. Vous comprenez ? Ça y est ? Non, mais je vais vous dire, c'est simplement un conseil amical. Apprenez la Torah, et après, longtemps après, vous approcherez de ces problèmes-là. A priori, ça me vient en arabe, en hébreu, l'oreille et l'ombre. C'est la ta'am et la bunna. Je sais pas quoi dire.
S'il vous plaît, vous
attendez. Je sais pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui. C'est vraiment tellement. Remarquez.
Pourquoi vous avez choisi Shira Shirim et pourquoi le huitième jour et pourquoi on parle de ça? Je veux dire que c'est un peu provocant de votre part. Excusez-moi, mais moi, je suis en train de dépasser un peu le respect là. C'est pour ça que je vous présente mes excuses tout de suite. Je crois que ça vient aussi un peu de vous.
Non. Écoutez, je veux dire, Shira Shirim, c'est très concret. C'est pas de mystique. Quand un bien-aimé parle de l'amour de son bien-aimé, c'est de la bonne santé mentale. Et quand c'est à travers ce langage, ce discours, qu'est, comment dire, véhiculé la relation entre le créateur et la créature, c'est de la religion biblique, rien à voir avec la mystique. Vous croyez que le bien-aimé de ce cantique des cantiques aime mystiquement sa bien-aimée, il l'aime tout court. Vous comprenez ? Vous voyez qu'il va se satisfaire d'une satisfaction de jouissance mystique avec sa bien-aimée. Un jour, j'ai écouté une conférence faite par un curé sur Shira Shirim. Et en sortant, je lui ai dit, j'ai pas voulu lui dire en public, je lui ai dit, mais écoutez, enfin, moi je suis un peu sceptique. Et pour pouvoir parler de l'amour de Dieu, il faut d'abord savoir ce que c'est l'amour d'une femme. Alors il m'a répondu, tu sais pas si je sais pas, mais. C'est à ce niveau-là que je revois mon grand-père. Et quand on étudie avec lui, vous savez. Ce que je vous exprime en français contemporain, d'abord les choses concrètes, claires, la bonne santé mentale, tout ce qui est fumeux comme ça, c'est vous suspect.
Hier, justement, quand vous parlez du huitième jour, et que le huitième jour, enfin, on comprendrait quel sens du septième, pour moi, j'ai cru à un moment, je me suis dit, ah, bon, ça va, le huitième jour va arriver, on va comprendre. Donc, à un moment, je me suis dit, j'ai cru que j'étais éternelle. Qu'est-ce qui me dit que le huitième jour, je le vivrai personnellement?
Bon, que vous soyez éternelle, c'est notre problème.
Hier soir, je me dis, ok, ça va, c'est bon.
C'est bon, je crois.
Mais après, en rentrant, je me suis dit, mais le huitième jour.
Écoutez, c'est peut-être pour vos
arrière-petits-enfants.
Mais il s'agit du moment de l'histoire de l'univers.
Il y aura un huitième
jour. Dont la Bible commence par nous raconter les commencements. Il y a d'abord eu six jours de transformation du monde.
Ensuite
commence le grand jour du septième jour où l'histoire humaine est logée. Elle a un aboutissement, un bilan, une récapitulation.
Alors il va y avoir un autre jour la semaine.
C'est à ce niveau-là qu'il faut l'entendre. Et le sort individuel, c'est pourquoi la tradition nous parle de la résurrection des personnes. Je vous souhaite d'y être, on va rendre vous si vous voulez. Mais vous avez raison de dire ça, vous avez dit, et rassuré, j'en suis très content.
Mais maintenant, non.
C'est maintenant que nous sommes dans le mauvais.
Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé en parlant de la mauvaise époque.
Je voudrais poser la question.
Est-ce qu'il y a
une question à nous rentrer de texte?
Oui.
Vous avez dit que d'après toutes les manifestations des prophètes actuels, vous voyez que le temps approche pour les prêtres.
Je peux corriger tout de suite, c'est le rassemblement des exilés en Israël qui le signe que la prophétie va recommencer. C'est pas du tout les manifestations des prophètes. Et comme cet événement, qui est un événement de la santé de l'histoire, si j'ose dire, est arrivé, alors nous savons que ceux dont nous ont parlé, nos maîtres et leurs maîtres, que le jour du rassemblement d'Israël en Israël, la prophétie recommencera, va arriver. Et nous assistons au fait que ça commence avec du fading, je ne sais pas comment vous dites, des parasites qu'on entend avant que l'émission ne soit entendue. J'ai envoyé une image Mais je pense que vous savez, nous sommes assaillis à Jérusalem, ça fait la queue, chez tous les psychiatres, chez tous les rabbins qu'on croit être mystiques et qui ne sont pas. Et pas seulement des juifs, aussi beaucoup de non-juifs. Et chacun vient à sa manière nous dire, ben tu sais, c'est moi. Bon, ben nous savons très bien que c'est pathologique, c'est tout. Mais encore une fois, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Nous avons beaucoup de tendresse pour ces gens qui croient au point d'en devenir fous. Mais ils ne sont pas fous. Ils sont fous sur un point. Ça y est, c'est clair.
Est-ce qu'il y a
pas eu plus de questions? Oui, effectivement. Revenons au texte. Vous permettez qu'on revienne au texte?
Oui, trop long.
Bien, je vous propose dans tous les cas, oulala, il est tard. C'est rien, on a passé une heure, mais c'était peut-être nécessaire. Je vous propose dans tous les cas que je verrai avec le bureau, que dans tous les cas, il y ait la séance du dimanche après-midi, que j'introduirai, si Joël ne peut pas venir, que j'introduirai par Job de l'Ecclésiaste, pour donner un point de départ à l'échange de vues, et qu'une bonne partie du temps soit consacrée à cet échange de vues, mais sur les grandes perspectives du problème. Peut-être que nous profiterons du séminaire du matin quelques temps pour des petites questions de détail, mais pour l'amour de Dieu, si j'ose dire, laissez ce problème de la mystique de côté. Je veux dire, je ne sais pas quelle image il faudrait que j'emploie pour être suffisamment clair. Je crois qu'il faut admettre qu'il y a un lien de vie intérieure entre chacun et ceux qu'il appelle son Dieu. Ça ne regarde en rien la tradition juive. Du point de vue de la tradition juive, c'est l'affaire de la vie privée, des tripes de chacun, du cœur de chacun, et 3000 ans de tradition hébraïque nous montrent qu'on ne parle pas de ça en public. Parce que dès qu'on met ça en public, ça fait pathologie. Ça y est, c'est clair. Il y a une question de décence, de pudeur. Un juif ne parle pas de son expérience mystique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais ça ne regarde pas, ça regarde pas la société. Ça, c'est... ça y est, c'est clair. Dès que... Je ne sais pas comment les psychiatres appelleraient ça, mais dès qu'on parle de cela, alors il y a un désordre qu'il faut analyser.
Okay. C'est intransmissible, peut-être.
C'est
intransmissible, et que la tradition juive est transmissible.
C'est vrai aussi, mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a juste une phrase. Il y a la perception qu'il s'agit d'une irruption, d'une expérience religieuse païenne à l'intérieur de l'univers biblique. Et alors, ça reste dedans. Si ça sort, ça gêne. Allez, ça y est, on reprend la branche. Bien. Alors écoutez, nous allons lire le commentaire de Gaudiola sur donc le. Vous prenez la première page, et je pense que vous avez aussi distribué la seconde qui vient après.
Oui.
Je vous traduis d'abord le. Non. Eh bien, j'en ai plus, vous savez. Continuez même. Je l'ai traduit. Chez la chérie, ma chère Chémo. Donc, le chant des chants qu'il y a à Salomon. C'est cette expression que nous utilisons devant des villes en détail, qu'il me m'embrasse et des baisers de sa bouche, qui tobin do bechamiaï. Ici, c'est la communauté d'Israël qui parle. Elle dit, elle, vous voyez le parallèle? Elle dit, je préfère que ce soit dans la réalité du baiser de sa bouche, rappeler nostalgie d'une expérience qui a déjà eu lieu. Au Sinaï, c'est Dieu qui s'est révélé en direct, pas à travers les prophètes, pas à travers les porte-paroles, lui-même. Cette expérience exceptionnelle qui nous a transformés. C'est la bar mitzvah d'Israël au Sinaï. Ça, elle le dit à l'universel. Vous voyez la forme à la troisième personne. Voilà ce que je souhaite. Elle le dit à tout le monde. Qui chacun ni inéchikutu. Que lui, que je connais, qui me baise les baisers de sa bouche. Et après, elle s'adresse à lui. Et j'ai dit ça à eux, tous, ce qu'on va appeler Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Faites attention, les filles de Jérusalem, ce n'est pas Israël. Les filles de Jérusalem, c'est les filiales. Okay? C'est ceux qui ont entendu ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est les nations, les filles de Jérusalem. Ce n'est pas les Juifs, enfin les Juifs, les Hébreux. Est-ce que c'est clair? Alors, elle s'adresse aux filles de Jérusalem, c'est une expression qui, ça veut dire ceux qui se reconnaissent, qui reconnaissent leur source, de vérité à Jérusalem, mais c'est les goïmes, c'est pas Israël, les filles de Jérusalem. La bien-aimée, l'unique parmi toutes les filles, c'est-à-dire parmi toutes les sociétés, en relation d'alliance, et d'alliance dans le sens conjugal, dans le sens que M. Nair...